Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 7 décembre 2007. Affrontement au Nord Kivu, réunion de la commission conjointe de la Tripartite Plus, tenue à Addis Abeba en Éthiopie cette semaine, et premier anniversaire de la prestation des serments de Joseph Kabila en tant que président de la République démocratique du Congo. Tels sont les trois sujets de l'émission de ce soir. Nous avons comme invité Maurice Bokoko, directeur des informations de Canal Congo Télévision CCTV et de Radio Liberté Kinshasa Rally, Pascal Sankonde de Kasaï Horizon Radio TV KHRT et Victoire Eyobi, directeur de publication du magazine économique Entreprendre et collaborateur extérieur du quotidien Forum des Actes, publié à Kinshasa. Mais commençons d'abord par le discours sur l'état de la nation que le chef de l'État, Joseph Kabila, a tenu ce jeudi 6 décembre 2007. Ceci devant les députés nationaux et sénateurs réunis en congrès. Pendant 1h05, Joseph Kabila a touché tous les aspects de la vie nationale après une année passée au pouvoir comme président élu. Dans les domaines judiciaires, par exemple, Joseph Kabila a fustigé ce qu'on peut qualifier d'une justice pour les riches et d'une justice pour les pauvres et les faibles, tout en mettant aussi en garde contre des modifications injustifiées de la Constitution, suivant Joseph Kabila, dont les propos ont été recueillis par René Capita.
Il est temps que cesse l'ironie du sort qui veut qu'aujourd'hui dans ce pays, les criminels, parce que riches ou politiquement bien connectés, attendent plus sereinement un verdict que la victime. Il est temps que les citoyens soient assurés que devant les juges, seuls comptent les faits et les droits, et nullement l'ethnie, la race, la nationalité, la couleur politique ou la condition sociale. Je ne peux en finir avec les réformes juridiques sans nous mettre en garde contre la tentation de vouloir régler tout dysfonctionnement éventuel des institutions par une révision constitutionnelle. En principe, la loi fondamentale d'un pays ne devrait être modifiée qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement dans l'intérêt supérieur de la nation.
Sur le plan économique et social, le chef de l'État a déclaré que le travail ne faisait que commencer en RDC, ajoutant aussi que les Congolais devraient d'abord compter sur leurs propres moyens. Une fois de plus, le président de la République au micro de notre confrère René Capita.
Notre action au cours de l'année 2007 a aussi porté sur l'amélioration de l'état des infrastructures de base dans notre pays. Le gouvernement a ainsi affecté d'importantes ressources à l'amélioration de la desserte en eau à Kinshasa, comme dans plusieurs villes et grands centres de l'intérieur du pays. En ce qui concerne l'électricité, une réflexion profonde a été entamée pour élaborer la meilleure stratégie d'action en vue de résorber le déficit en fourniture d'énergie électrique. L'accent pendant l'année qui s'achève a été mis sur l'évaluation de l'application jusque-là du code et du règlement minier, ainsi que les divers contrats miniers signés soit par l'État, soit par les entreprises publiques. Mais notre travail, nous Congolaises et Congolais, ne fait que commencer, car même si l'appui de nos partenaires n'est ni à négliger ni à récuser, en dernier ressort, c'est à nous et à nous seuls qui revient de construire le Congo.
Maurice Bokoko, vous êtes directeur des informations de Canal Congo Télévision, CPTV, de Radio Liberté Kinshasa, Rally. Quel bilan faites-vous de la première année passée à la tête de la RDC comme chef d'État élu?
Merci Claude, merci à tous les auditeurs de Radio Capi pour l'attention qu'ils viennent nous accorder pendant notre émission. Eh bien, Claude, la question est assez importante. Nous avons tout ceci hier, le président de la République a parlé, comme vous l'avez dit, devant le Congrès, c'est-à-dire les chambres du Parlement réunies. Le discours a duré pratiquement 1h05. Eh bien, personnellement, j'ai suivi avec une attention soutenue le président de la République, qui a lu un bon papier. Mais le discours du chef de l'État était plus littéraire que de fait. Et je crois qu'après une année de règne, eh bien, le président de la République devait donner des réalités. Mais je constate que le bilan est largement négatif. Et parce que je prends l'exemple de la sécurité. Le chef de l'État s'est appesanti sur la sécurité seulement au niveau du Nord Kivu, de Nord et Sud Kivu, où il a parlé que sur les 145 territoires, il n'y a que Masisi et Rutshuru où l'insécurité continue à régner. Je crois que ce n'est pas vrai, parce que quand nous prenons l'insécurité, mais le pays tout entier dans l'insécurité alimentaire, il y a pas seulement, on ne compte pas seulement les morts parce qu'il y a la guerre, on compte également des morts parce qu'il y a insécurité alimentaire, les gens ne mangent pas bien. Donc là, c'est une sécurité qui gagne tout le pays.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que si la guerre prenait fin, il y aurait facilité pour le Congolais d'avoir accès à la nourriture, justement, par exemple, qu'on est
en jour avec la guerre. Justement, je voudrais arriver à ça. Le chef de l'État devrait, parce que déjà au départ, de quand il avait prêté serment, il avait mis l'accent sur la sécurité au nord et au sud du Kivu. Donc, nous ne pouvions plus, en tout cas, il ne pouvait plus parler de l'insécurité au nord et au sud du Kivu. Même dans le Rutshuru, on ne pouvait plus parler de ça. Donc, il devait prendre ses responsabilités dès le départ. Parce que nous, on est journalistes, nous avons suivi. Le chef de l'État était massivement voté par ces gens-là. Parce que justement, les gens avaient confiance en lui en disant nous votons pour lui parce qu'il va mettre la fin à la guerre. Malheureusement, à Rutshuru, à Masisi, disons, sur l'ensemble de l'Est, l'insécurité continue. Et depuis belle.
Mais donc, il n'a fait qu'une seule année, mais est-ce que.
Écoutez, nous n'avons pas besoin de. De dire non, aujourd'hui nous pouvons vivre malheureux, demain nous allons. Non, c'est un procès responsable. Quand on se porte candidat à la présidence de la République, on mesure le poids. Donc il faut sécuriser les gens dès le départ, il ne faut pas attendre que dans 10 ans, c'est pas ça.
Il a encore 4 ans. Hein.
Oui, donc il n'est pas terminé, si vous permettez.
Rapidement, pour que les autres.
Donc, je vous dis qu'il y a l'insécurité, l'insécurité alimentaire sur toutes les zones de la République, il y a l'insécurité au niveau également de la province orientale. Je crois vers Dongo, et le système de Mbororo, les députés de ce coin-là se sont plaints devant l'Assemblée nationale. Et l'insécurité, ces gens ne vivent pas dans la paix parce qu'il y a des étrangers qui viennent avec de leurs bœufs et qui tuent les gens. Donc il y a une sécurité de ce côté-là. Au niveau à l'ouest, dans la province de l'Équateur, il y a un espace très très dangereux entre le territoire de Monkoto, dans l'Équateur, dans le territoire de Guessé, de Kasaï occidental, Oshue, dans le territoire d'Oshue, province de Bandundu, il y a des milliers de braconniers qui tirent, qui pissent. Donc, l'insécurité,
merci beaucoup
partout. Donc, merci, le bilan est très négatif.
Merci beaucoup, Maurice Bokoko. Le bilan est très négatif, d'après le directeur des informations de CCTV. Est-ce votre avis, Victoire Eyobi? Je rappelle que vous êtes directeur de publication du magazine économique Entreprendre et également vous êtes collaborateur extérieur du quotidien quinois Le Forum des As.
Claude, vous savez, hier, on a assisté à chef de l'État très rassuré, qui était pratiquement dans son meilleur jour devant le Congrès. Ce que je voudrais dire à propos du bilan, c'est que pour cette première année, il fallait d'abord mettre en place les fondamentaux. Nous voulions une rupture. Je crois qu'au travers des élections, la population s'est prononcée. Maintenant, il fallait voir comment mettre ces processus en marche. Et c'est ce que tous Congolais, nous avons pu faire durant cette première année. C'est vrai que le chef de l'État, il est le responsable, il répond le premier, mais il ne s'agissait pas à lui seul de jouer, mais à nous tous Congolais. Et sur le plan concret, nous avons eu la mise en place
des différentes institutions, Parlement dans ses deux chambres, le gouvernement. Bientôt, nous aurons de nouveaux chefs d'entreprise. Donc, il fallait d'abord voir comment changer le système, comment changer, quitter le 1 plus 4 pour entrer maintenant dans le nouveau système. Il fallait également mettre en place les textes. C'est ce que le Parlement est en train de faire, notamment avec la réforme des entreprises, la loi sur la décentralisation, autant de textes en chantier et d'autres qui ont déjà été adoptés. Il fallait également procéder à une ouverture extérieure. C'est ce que le Congo a fait et le chef de l'État l'a rappelé hier. Il a été aux États-Unis, il y a eu d'autres émissaires qui sont allés en Chine et de plus en plus, il y a des investisseurs qui viennent de notre pays et même qui décident de débloquer des montants colossaux en faveur du Congo, ce qui ne se faisait pas. Sur le plan économique également, vous savez, il y a eu des efforts, ce qui a fait que finalement, les institutions de Bretton Woods acceptent de signer un nouveau contrat avec la RDC pour les années à venir. Et dernièrement, vous savez, les bailleurs des fonds au niveau de Paris ont accepté de libérer comme ça une ligne de 4 milliards de dollars en faveur de la RDC. Alors, le grand chantier de la sécurité, il faut le reconnaître, ce n'est pas en un an qu'on pouvait éteindre le brasier de l'Est de la RDC.
Même de l'Ouest, oui,
de l'Équateur, vous savez. Nous avons le grand problème d'abord de réarmer, d'outiller, d'équiper notre armée, non seulement sur le plan matériel, même sur le plan moral, mais aujourd'hui où nous parlons, c'est le Congo, qui est en position d'attaque, c'est le Congo qui se lève pour défendre son territoire, pour défendre ses populations. C'est vrai que l'opération n'est pas close, mais ce n'est pas en un jour ou deux que cela devrait se faire. Et même à propos de la sécurité à l'Est, vous savez, ce n'est pas seulement l'affaire du seul Congo, ça implique les pays voisins. C'est ce qui explique la tripartite dernièrement qui a eu lieu au niveau de d'Addis Abeba. C'est pour montrer que le problème de la sécurité, ce n'est pas seulement une décision gouvernementale qui suffit, il ne suffit pas de décréter, mais il faut encore réunir tous les paramètres pour que nous puissions vivre la paix. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes à un point de départ et je crois que nous devons saisir le message du sommet.
Merci beaucoup. Victoire et Yobi, nous partons directement vers Kanango Kasai occidental, d'où intervient au téléphone notre confrère Pascal Tankonde de Kasai Horizon Radio TV KHRT. Comment au Kasai occidental vous faites le bilan de la première année du chef de l'État en tant que président de la République élu?
Merci Claude, merci à tous les autres participants, merci également à tous les auditeurs de la radio Okapi. C'est bien dit comme vous voudriez bien sûr avoir notre avis ici au Kasai occidental. Je m'en veux vous dire Claude que au Kasai occidental, des problèmes sont les mêmes.
C'est-à-dire
électricité, eau, santé, éducation. Les problèmes sont constants et insolubles jusqu'à ces jours.
Pourtant, le président de la République, dans ce que nous venons d'entendre, a dit que des moyens ont été mis à la disposition des services compétents pour notamment le domaine des infrastructures, l'électricité par exemple.
Non, l'électricité dont on parle jusqu'à Kasai occidental, c'est seulement l'éclairage public. Vous savez, Claude, sans un débit d'exécution des projets, les pessimismes gagnent tous les esprits. On dirait la répétition de la célèbre phrase du général Jean-François, je cite, « Avant l'indépendance et égale après l'indépendance ». On semble ici croire à des promesses fallacieuses et en consultant Claude le site de ce chantier de Joseph Kabila, l'on croit à une marginalisation du Kasai occidental. Je prends l'exemple de certains territoires entiers qui ne sont pas considérés et ne seront pas touchés par ce programme. Le cas des territoires, par exemple, des Bekese, des Kazumba, des Luisa, les territoires de Djibaya, de Mbamweka, Irebo, ne bénéficieront peut-être que de la réhabilitation de la voie ferrée.
Excusez-moi Pascal Tankonde, quand vous parlez de promesses fallacieuses de la part du chef de l'État, est-ce que ce n'est pas trop vite puisque ce n'est que la première année, il lui reste encore 4 ans?
À mon sens, moi, je trouve que ce n'est pas 4 ans comme nous le prétendons, parce que nous venons de passer un an. Et il y a encore 4, comme on le dit, mais vous savez qu'avec la quatrième année, peut-être la cinquième année, ce sera la fin du mandat. Et la quatrième année, là, sera consacrée peut-être à la préparation des élections pour briguer un prochain mandat, et ainsi de suite. Alors, moi, je disais que, selon l'opinion ici au Cassin occidental, le seul chantier correspondrait au mandat. Donc un chantier pour une année, et ainsi de suite. Mais je me réalise qu'une année vient de se passer et aucun chantier n'a été amorcé au Cassin occidental. Alors, après un an d'exercice de pouvoir, faut-il parler de l'établissement des états des lieux pour la République démocratique du Congo, alors que les problèmes sont connus depuis la prise de pouvoir en 2001? Je voudrais ici dire que les états des lieux ont été déjà faits durant le premier mandat 2001-2006. Et maintenant, nous nous rendons compte qu'à l'issue d'une année de pouvoir, beaucoup de choses n'ont pas été réalisées, c'est-à-dire qu'il reste d'énormes efforts à fournir pour intensifier, par exemple, la lutte contre la pauvreté qui gangrène la majeure partie de la population. Merci. Qui attend de retrouver son sourire.
Merci.
Alors ici, au Cato Central Close,
rapidement.
Ici au Cato Central, le peuple voudrait que cette année, clôture des espoirs, tant sur le plan sécuritaire, politique, diplomatique que socio-économique, nous ne doutons pas un seul instant que le président de la République s'attardera sur ce nouveau partenariat qui doit créer les conditions optimales d'une nation moderne. C'est-à-dire que le peuple a besoin qu'elle soit transformée en bénéfice immédiat sur l'engagement aux élections de 2006.
Merci.
Et refuse de se considérer comme un réservoir des voix sans incidence sur sa vie quotidienne.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous a compris, Pascal Cancondé. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Passons à notre deuxième sujet. C'est après des durs affrontements cette semaine que l'armée nationale a finalement pris possession de la localité de Mushaki au nord Kivu, un bastion important de l'Orankunda que ses troupes ont tenu pendant près de 3 mois. La prise de la localité de Mushaki dans les territoires de Masisi depuis mercredi matin par la 14e et 82e brigade de l'armée nationale est une victoire pour toute l'armée congolaise. Le général Dieudonné Kalimbe, chef d'état-major général des FARDC, l'a déclaré lors d'une conférence de presse tenue mercredi dernier dans l'après-midi à Goma, au Nord Kivu. Nous vous proposons de l'écouter. Il revient tout d'abord sur la situation opérationnelle au Nord Kivu. Il est au micro de notre consoeur Denis Lukeso.
La prise de Mushaki est une victoire majeure qui représente non seulement une aspect tactique, mais aussi et surtout stratégique. De ce fait, elle ouvre la voie vers Matissi Centre, Nyabiondo et Walikale, libérant ainsi la route Walikale-Goma d'une part. D'autre part, ce succès permet aux FARDC d'atteindre Kichanga et Tongo, cœur du dispositif du groupe pour la loi de Nkunda. En ce qui nous concerne, nous allons continuer à appliquer sans relâche le plan opérationnel dont nous avons parlé avec vous il y a 2 semaines et qui a été validé par le commandant suprême. Je vais m'adresser maintenant aux jeunes gens qui ont été induits en erreur par M. Nkunda. Je voudrais les rassurer que le président de la République leur accordera encore son pardon paternel pour eux qu'ils quittent les rangs de cette rébellion.
Maurice Bokoko, vous êtes directeur des informations de Canal Congo TV et de Radio Liberté Kinshasa Ranik. Comment vous interprétez au niveau de CCTV? Vous ne fonctionnez pas pour le moment.
Malheureusement.
Vous avez été suspendu.
Oui. Qu'on va être ouvert.
Merci beaucoup. Comment vous interprétez la reprise de la localité de Mushaki? Parce que j'ai aussi devant moi ici une dépêche de l'agence France Presse qui dit qui affirme que les FARDC auraient récupéré Kikuku et Nyanzale, localité du territoire de Rutshuru, située entre 100 et 130 km au nord-ouest de la capitale provinciale Goma. Ces deux positions avaient été prises par les rebelles dimanche dernier. Quand même, la prise de Mushaki qui est vraiment importante puisque c'était quand même un endroit très stratégique.
Merci Claude. Je crois que nous sommes des journalistes. Nous ne pouvons pas
dire n'importe quoi, nous devons respecter la déontologie. Je crois que ce sont des faits. Si effectivement les RDC ont gagné, ont cassé les conditions de M. Kay, c'est une très bonne chose. Donc nous ne pouvons que féliciter les RDC pour l'action menée et nous ne pouvons que reconnaître cette évidence parce que ce sont des faits et nous devons respecter les faits. Mais nous ne pouvons pas d'emblée chanter, parce que ce qui importe pour les Congolais, ce n'est pas que chaque ait été gagné par les RDC, ce qui importe c'est que la guerre se termine, que les RDC arrivent à bout de tout ce qu'on dit, et pour de manière à ce que ce coin-là puisse vivre en paix, et que la RDC en général vive en paix. Donc,
il y a aussi Maurice Bokoko, des populations qui risquent d'être prises en tenaille entre deux feux.
Oui, mais d'accord, c'est ça. Justement, donc on ne peut pas faire autrement. Si les Nkundistes, s'ils sont Congolais, et ils comprennent que la guerre n'est pas bonne, ils n'ont qu'à se laisser prendre par les gens, abandonner la guerre, de manière à ce que, effectivement, la paix revienne. Mais si ils ne veulent pas entendre de cette oreille-là, eh bien les RDC ne devraient pas aller en guerre. Ça, c'est tout à fait normal. Et malheureusement, il y aurait plus de victimes. Des innocents qui vont perdre la vie.
Donc, est-ce qu'on peut dire que l'offensive qui avait été annoncée par le chef d'état-major général des FRDC, le commandant des forces de la MONUC, est maintenant en marche?
Oui, elle marche, effectivement, parce que la guerre, ou plutôt, les gens, les Nkundistes ont été délogés, la guerre a continué, donc le combat a eu lieu. Le projet mis en route par le responsable de l'armée est en route, effectivement. Donc, il n'y a plus de moyens de reculer, à moins que les autres se rendent. S'ils ne se rendent pas, eh bien, je crois que la compression devra continuer.
Victoire, Yobi, est-ce qu'il n'y a plus moyen de reculer, comme vient de nous le dire Maurice Bokoko?
Oh, on a l'impression qu'actuellement, c'est beaucoup plus logique de la guerre qui a pris les dessus sur l'aspect négociation. Et dans ce sens-là, la reprise de Moussaké, c'est une victoire importante, dans ce sens que ça permet, entre autres, à la population de cette localité de reprendre normalement possession de ses terres, également de ses activités, mais également ça permet de repousser un peu les insurgés loin de la ville de Goma. Vous savez, dernièrement, on avait beaucoup de craintes à propos de la progression des insurgés, mais maintenant qu'ils reculent, c'est bon. Mais la grande question, c'est de savoir jusqu'où les FARDC vont aller dans leur offensive. Jusqu'où exactement?
L'objectif, je pense, c'est d'arriver à Kichanga, le bastion même de Laurent Nkunda.
Oui, c'est ça la grande préoccupation. Est-ce qu'ils vont arriver jusqu'au bout de leur démarche, ou bien, comme par le passé, vous savez, cela est arrivé à plusieurs fois, ils vont s'arrêter quelque part, reprendre encore les négociations, et après on apprend encore que les insurgés ont attaqué. Alors c'est un jeu qui apparemment actuellement est dépassé. Je crois que les FARDC ont intérêt à aller jusqu'au bout de leur démarche et libérer totalement, d'autant plus que même au niveau de la tripartite, c'est l'option militaire qui semble prévaloir sur toute autre négociation.
Pascal, tant qu'on dit qu'il faut aller jusqu'au bout et ne plus négocier ou renégocier.
Moi, je voudrais seulement dire que le gouvernement a déjà pris l'option militaire. Il faut continuer avec la logique jusqu'au bout. Ceux qui parlent des négociations ne font que tourner dans des régions et nous mettre de la poudre aux yeux. La logique doit continuer pour dissuader tout compatriote qui s'évertuerait de tenter la même aventure. Donc, c'est-à-dire que la reprise de la localité de Mushaki doit pousser les FARDC et la MONUC à appuyer sur la même lancée et éviter la distraction.
Mais que dites-vous alors des populations qui risquent d'être prises en tenaille entre deux feux?
Non, en ce qui concerne la population, il faudra que la population elle-même soit protégée. Comme on a souligné tout à l'heure, moi je venais de suivre mon confrère Victoire qui a essayé un peu de tirer là-dessus. Il faudra que la population, qu'on en tient aussi compte parce que nous risquons de vivre encore les figures de ça.
Maurice Mokoko, le chef d'état-major général des FRDC, le général Kayembe, a lancé un appel vis-à-vis des fils égarés de la République qui combattent aux côtés de Nkunda de rentrer dans la grande famille, puisqu'ils bénéficieront du pardon du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que l'appel du général Kayembe pourrait être entendu maintenant que les troupes de Nkunda semblent être en position de faiblesse?
Je ne sais pas. Lancer un appel aux dirigeants, c'est une très bonne chose, mais maintenant, c'est pour voir la réaction des autres. Et nous ne pouvons pas non plus dire, comme l'a souligné notre confrère
Victor Ayobi,
nous ne savons pas jusqu'où iront les FARDC, parce que, comme je l'ai dit également, il y a la guerre, il y a le combat. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, parce que pour être dans la position de faiblesse, peut-être demain, il peut revenir en force, on ne sait pas. Donc, mais, en tant que Congolais, nous souhaiterions que les jeunes gens puissent effectivement suivre l'appel du général Kayembe de manière à ce que la guerre cesse et que ce côté-là, même si effectivement les étrangers sont menés dans cette guerre, mais si au moins les nationaux prennent conscience de la paix qui doit régner dans notre pays pour nous permettre de nous développer, eh bien des choses peuvent changer autrement.
Victor Ayobi, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être assez suicidaire actuellement le combat que mène Laurent Nkunda et ses troupes, parce que quand on voit même le rapport de force, d'un côté il y a 20 000 hommes des FARDC et plus ou moins 4 000 hommes de Laurent Nkunda, soit un soldat de Laurent Nkunda qui combat 5 militaires de l'armée nationale.
C'est suicidaire, mais tout dépend de la détermination des FARDC. Si vraiment les FARDC veulent aller jusqu'au bout, je crois que ça va amener Nkunda à rectifier un peu les tirs. Et on a suivi comme ça dans les périspéties que toutes les fois qu'il y avait une offensive sérieuse, Nkunda rectifiait le tir dans le sens d'une négociation, d'un rapprochement. Mais je crois qu'il faut en finir avec ces dossiers, d'autant plus qu'ils constituent ni plus ni moins juste une épine dans le processus de reconstruction, du développement même de notre pays. À l'allure où les choses vont, nous risquons d'exclure le Kivu de la relance économique de notre pays, au moment où les investisseurs sont là, au moment où toutes les forces productives sont mobilisées pour rebâtir le pays. Donc c'est vraiment une guerre inutile. Et je crois que Nkunda et ses gens doivent également le comprendre.
Maurice Mokoko, avant de donner la parole à Pascal,
un petit mot, je crois que ici qu'on prête, il ne faut pas compter sur le rapport des forces. Et dans le monde moderne, et bien, le nombre d'hommes ne peut pas amener les gens à dire nous allons gagner. Et ce sont des moyens dont on dispose et des stratégies justement dont on dispose. Et c'est pas parce que Nkunda a moins d'hommes qu'on dira aujourd'hui bien l'armée congolaise va gagner parce que elle a devant elle que 20 000 hommes, 30 000 hommes, 100 000 hommes. Donc c'est un problème de stratégie militaire et de moyens dont on dispose. Et si Nkunda a des moyens plus sophistiqués, eh bien je veux dire qu'il peut mettre en déroute 20 000 hommes.
Merci beaucoup Maurice Bokoko. Pascal Kankonde, vous êtes de Kasaï Horizon Radio TV, KHRT. Vous intervenez depuis Kananga au Kasaï Occidental. Est-ce que vous pensez que maintenant où les hostilités sont vraiment engagées, il y a encore une place pour les négociations?
Non, moi c'est comme je les soutiens, je les même soutenu la fois passée, parce que hier par exemple, dans les petites heures là, j'ai suivi Laurent Nkunda, le général des Cheux, sur une chaîne étrangère, qui disait qu'il n'avait pas encore perdu quelque chose. Vous savez, nous avons un principe, si vous trouvez que devant vous il y a un puits, vous reculez pour bien sauter ce puits là. Nous ne pouvons pas facilement en dire d'emblée que Nkunda est en position de faiblesse. Comme l'ont dit mes prédécesseurs tout à l'heure là, mais moi aussi je trouve que toutes les voies pacifiques ont été déjà épuisées et ce qui nous reste c'est seulement la contrainte, tenir à cette logique là pour qu'on arrive à en finir une fois pour toutes.
Mais est-ce qu'il y a encore une place pour la négociation, ne serait-ce qu'une conférence qu'avait annoncé le gouvernement congolais pour ramener la paix dans les Kivu?
C'est ce que je disais tout à l'heure là, que ceux qui parlent de négociations ne font que tourner qu'en dérision. Moi, je ne vois pas pourquoi il faudra qu'on revienne avec les négociations pendant qu'on négocie et après que les sous-marins qui se fassent.
Merci beaucoup, Pascal Cancondé. Donc, nous passons à notre troisième et dernier sujet de cette émission. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice et les chefs d'État de la région des Grands Lacs africains se sont mis d'accord pour renforcer rapidement les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Ceci ressort de la réunion de la commission conjointe de la tripartite plus tenue ce mercredi à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Réunion qui avait comme principal objectif rechercher la paix dans la région des Grands Lacs. Les détails avec notre confrère Daniel Tambinzoni.
Selon le communiqué lu par Condoleezza Rice à l'issue de cette rencontre, les États-Unis et les pays de la région des Grands Lacs se sont engagés à renforcer sans délai les institutions de sécurité en République démocratique du Congo. Madame Rice n'a fourni aucun détail sur cet accord. La réunion d'Addis Abeba a également été l'occasion pour les présidents ougandais Yoweri Museveni, rwandais Paul Kagame, burundais Paul Nkurunziza et le ministre congolais des Affaires intérieures Denis Kalumé de réitérer leur engagement vis-à-vis de l'accord conclu le 9 novembre entre Kigali et Kinshasa visant au désarmement des FDLR. Rappelons que la diplomatie américaine avait demandé à Laurent Kunda à se rendre et à s'exiler pour éviter un nouveau bain de sang à l'est de la RDC où la vie de près d'un million de personnes est menacée. Sachez aussi que Mme Rice devra avoir une série d'entretiens liés aux crises qui perturbent la stabilité du continent africain, notamment le dossier de la Corne de l'Afrique avec la guerre civile somalienne et la tension permanente entre l'Éthiopie et l'Érythrée.
Maurice Bokoko, vous êtes directeur des informations de Canal Congo Télévision et de Radio Liberté Kinshasa Ralik. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice et les pays de la région de Grand Lac africain se sont convenus mercredi à Addis Abeba de renforcer rapidement les forces de sécurité de la République démocratique du Congo qui mènent actuellement une offensive contre les rebelles, notamment congolistes. On n'a pas précisé comment sera au fait ce renforcement rapide des forces de sécurité de la RDC. Quelle lecture faites-vous de ces termes assez flous?
Bien sûr, on ne pouvait pas le dire publiquement. On ne peut pas dévoiler le secret lorsqu'on combat l'ennemi. Mais ce qui est vrai, c'est que il faudra que l'on sache la vérité. La situation en Est, Nkunda n'est pas l'animateur principal. Donc Nkunda peut s'exiler, mais la situation en Est du pays reste encore longtemps. Et c'est le fait que nous puissions survoler ces genres de sujets, alors que nous pouvions aller en profondeur pour démontrer la réalité des faits. Nkunda peut être exilé, mais il y a d'autres personnes qui...
Il y a les ex-phares, il y a les interams.
Oui, non seulement les interams, mais même les politiciens au pays, à l'étranger. La situation de l'Est n'est pas liée à Nkunda. La situation de l'Est est liée à une situation qui est généralement connue, et nous, journalistes, nous devons le savoir. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un plan. Quand vous causez avec les natifs de l'Est du pays, ils vous disent que depuis longtemps, les Tutsis préparent ce qu'ils appellent les Tutsiland.
Eh bien, ça un gâteau.
Oui, hein. Justement, je voulais dire aux journalistes, il faut que nous puissions parler franchement de manière à ce que l'opinion nous comprenne et que chacun puisse prendre ses responsabilités parce que quand l'Est est en guerre, comme c'est le cas, mais c'est nous tous qui souffrons. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions voir les choses, il faudrait que nous puissions effectivement dire la vérité, mais c'est regrettable. La situation ne concerne pas encore la seule. Les rencontres, laissez-moi un peu de temps, les rencontres, il y en aura toujours. Mais est-ce que vous avez déjà appris qu'aux États-Unis, dans le rapport des Nations Unies, on a cité des Américains dans la guerre en RDC? Vous avez déjà entendu le président Bush organiser des rencontres avec les Américains pour qu'on laisse le Congo tranquille au Rwanda et Burundi? Vous avez déjà entendu parler de ça? Et au Congo même, il y a des policiers congolais qui sont dans la situation. Vous avez déjà entendu parler de cela? Non. Donc, Nkunda, effectivement, aujourd'hui, c'est lui l'acteur principal. Mais tant que cette situation n'est pas extirpée, la situation va rester la même. Ne vous en faites pas. Ce ne sont pas des gens de rencontres. Parce que ce sont les gens qui organisent ces rencontres-là. Ce sont des promoteurs. Ils ont des objectifs visés. Donc, ils viennent nous distraire, tout simplement.
Merci beaucoup, Maurice Bokoko. Est-ce que vous pensez victoire et Yobi que finalement cette rencontre d'Éthiopie pourra amener quelque chose dans la résolution des crises dans la région des Grands Lacs, notamment la RDC a présenté le 30 novembre, le 1er décembre dernier, un plan général pour le désarmement des ex-FARC et Interahamwe.
Je ne crois pas personnellement. D'abord, Claude, j'ai été vraiment déçu par le communiqué final de cette rencontre. Parler du renforcement des institutions de sécurité congolaises par le Rwanda, par le Burundi et l'Ouganda, je me dis que quelque part là, c'est comme si les Congolais ne comprenaient pas les choses. La première chose, c'est que il y a du côté des États-Unis comme encore des hésitations en attendant d'installer ces nouvelles bases, notamment au Congo, en marge du séjour du chef de l'État congolais aux États-Unis. C'est comme si les États-Unis sont encore en train de renforcer, de ficeler encore le dossier des Grands Lacs, de l'Afrique centrale, avant de pouvoir s'engager. Et avant cela, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt ces ponts, ces têtes de ponts en Afrique centrale et dans les Grands Lacs qui sont mis en exergue. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, on leur demande de renforcer les forces de sécurité congolaises.
Les États-Unis y compris.
Oh, mais les États-Unis sont en arrière-plan, pas en avant-plan.
Mais que...
Or, Claude, il suffit aujourd'hui que les États-Unis se décident. Il suffit aujourd'hui que les États-Unis lèvent l'option et partagent cette option avec leur tête de pont. La situation va changer dans la région. À preuve, le Congo a décidé carrément d'engager les combats contre Nkunda. Or, la clause était quoi? Si le Congo accepte de démanteler, de désarmer les FDLR, en ce moment-là, Nkunda va arrêter la guerre. Mais ce n'est pas le cas. C'est plutôt le Congo qui commence d'abord la guerre avec Nkunda avant d'attaquer le côté FDLR. Quelque part, là, il y a de l'hypocrisie. Et on ne va pas demander aux anciens protagonistes du Congo de venir renforcer non seulement nos institutions de sécurité, mais encore notre administration. C'est pour dire que jusque-là, le Congo n'existe pas.
Mais il y a quand même des mécanismes de vérification des frontières, des mécanismes communs.
Les mécanismes de vérification.
Le communiqué demande à ce que ça soit renforcé, notamment que le Rwanda.
Oui, les mécanismes, c'est clair, mais quand on parle de l'administration congolaise, quand on parle des forces de sécurité congolaises, on ne parle pas seulement des mécanismes. Les mécanismes sont connus. Et depuis longtemps, on a toujours parlé des mécanismes rwando-congolais et autres pour veiller sur la situation à l'Est. Donc, quelque part, je n'ai pas beaucoup apprécié la position américaine et je me dis que nous sommes encore dans l'expectative et c'est plutôt la démarche militaire qui est la plus importante actuellement jusqu'à ce que les États-Unis vont voir comment s'impliquer exactement pour arrêter le désordre dans la région. Le Congo est ami aux États-Unis, le Rwanda a des relations privilégiées avec les États-Unis, l'Ouganda la même chose. Je me dis que tous ces pays autour des États-Unis, pour trouver une solution, ça ne prendra pas 3 jours.
Merci beaucoup, Victoire. Et oubliez Pascal Kankondé, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion de la commission conjointe de la tripartite plus? Quand on dit, le communiqué dit par exemple que les forces de sécurité de la RDC devraient être, seront renforcées rapidement, est-ce qu'on peut penser à la promesse faite par le gouvernement américain d'entraîner l'armée congolaise, notamment pour neutraliser les ex-FARC et Interahamwe rwandais qui pilulent à l'est de la République démocratique du Congo?
En fait, Claude, tout en fonction des résultats, souhaitons que les déclarations d'intention se transforment en actes, car à notre niveau, déjà le Nkunda, on s'imagine Kigali, et derrière Kigali, il y a Washington. Que Washington s'implique pour résoudre la question et assurer la stabilité de la République démocratique du Congo. Nous pensons que cette fois-ci, elle est la bonne, et que Washington a compris la duplicité de son partenaire rwandais. La paix et la stabilité à l'est de notre pays doivent être des agendas réalistes et palpables. Il faut dépasser aussi le stade de rencontre et de négociation. Car à mon sens, je trouve que la rencontre d'Addis Abeba a été un sommet de dernière chance pour imposer une paix durable dans la région. Il n'y a pas d'autre alternative à mon niveau. C'est-à-dire que si nous allons dans le sens inverse ou au cas contraire, ce sera donc le retour à la case du départ.
Est-ce que vous pensez que la RDC a bien négocié dans cette rencontre d'Addis Abeba ou c'est plutôt peut-être certains pays voisins de la RDC qui sortent vainqueurs parce qu'en en mettant peut-être un peu plus l'accent sur le problème des intérêts, moins que des groupes armés congolais qui sèment l'insécurité à l'est du pays.
Moi, je trouve que la question a été quelque peu bien négociée avec le ministre de l'Intérieur qui a représenté le chef de l'État qui était empêché. Moi, je trouve que quand il est parti là-bas, et surtout que c'est nous qui sommes beaucoup plus menacés, nous, la République démocratique du Congo, il doit avoir bien négocié la question pour que la paix revienne surtout sur cette partie de la République démocratique du Congo.
Les confrères qui sont ici présents dans ce studio ne sont pas d'accord avec vous, oui, Maurice Bokoko.
Pas d'accord avec notre confrère, parce que je pense que le problème n'a pas été bien négocié au niveau du Congo. Et remarquez, et depuis tout le temps, le Rwanda a toujours parlé des effets de l'air. Le Rwanda attaque le Congo parce que les effets de l'air sont à l'intérieur du pays. Mais que fait le Rwanda pour accueillir les effets de l'air? Donc tant que ces gens-là restent chez nous, le Rwanda est quelque peu content parce que les dégâts matériels, les pertes humaines ne sont pas au niveau du Rwanda, mais c'est au niveau du Congo. Donc on aurait dû justement rentrer chacun dans sa case et préparer les choses de manière à ce que chaque pays gagne le pain. Parce que
ce n'est pas gagnant-gagnant,
pas du tout, parce que justement ici il s'agit des objectifs. Quels sont les objectifs que chaque pays s'est assigné? Les États-Unis, en étant derrière le Rwanda, qu'attendent-ils de la situation du Congo? Et le Rwanda, quand le Rwanda attaque le Congo, que cherchent-ils? C'est ça le problème. Donc il faudrait que nous puissions comprendre ça avant de faire n'importe quoi. Parce que ces acteurs-là, quand on est dans une paix de théâtre, et ça c'est le théâtre, et bien c'est dynamique, les gens nous distraient à tout moment, il faut que nous puissions prendre notre responsabilité, et la responsabilité du Congo c'est préparer la guerre, c'est faire la guerre, malheureusement on n'a pas de moyens, mais nous ne pouvons pas non plus baisser les bras.
Merci beaucoup Maurice Bokoko, je vous voyais aussi réagir, on n'était pas tellement d'accord avec Pascal Tankonde lorsqu'il disait que le Congo avait bien négocié dans cette rencontre d'Éthiopie.
Moi, je ne crois pas tellement. Il suffit de voir les rapports qu'entretiennent les différents pays avec les États-Unis. J'ai bien dit que le Rwanda est bien positionné, l'Ouganda est bien positionné, et le communiqué final met contre mur le Congo. C'est-à-dire que c'est le Congo qui est dans le besoin, qui n'a pas une bonne administration, qui n'a pas des forces de sécurité et qui doit être assisté par ses anciens protagonistes. Ça, nous n'acceptons pas. Que ce soit la MONUC qui vienne au secours des forces armées, comme ça se fait actuellement, tout le monde le comprend. Mais demander aux pays voisins qui soutiennent les forces rebelles contre le Congo de venir encore entretenir, soutenir nos forces armées, moi je crois que quelque part là, les choses n'ont pas été bien négociées et je m'en remets encore à la responsabilité des États-Unis qui entretient de bons rapports avec tous ces pays pour les amener vers la paix. Et c'est possible, et comme on l'avait vu lors de la guerre de 2002, il a suffi que les États-Unis pour que le Rwanda quitte le Congo et que l'Ouganda sorte également de notre territoire.
Victoire Yobi, mais finalement, que peut retirer les États-Unis d'Amérique de toutes ces rencontres? En fait, la Tripartite Plus a comme organe facilitateur les États-Unis. Qu'attendent les États-Unis de ces différentes rencontres au niveau de la région des Grands Lacs?
Vous savez, traditionnellement, les États-Unis, c'est les gendarmes de la planète. Les États-Unis veillent sur la paix, et la paix c'est une donne très importante. En second lieu, il y a toutes ces populations, on parle de 1 million, c'est pratiquement un génocide, pratiquement. C'est la situation humanitaire.
Quand vous parlez des génocides, c'est trop fort. Hein?
C'est trop fort, bien sûr, mais il y a 1 million de personnes qui se déplacent chaque jour, qui sont victimes, qui sont entre deux feux. Il y a également l'aspect économique. La région des Grands Lacs est très riche, et ça les États-Unis ne peuvent pas laisser passer ça.
Merci beaucoup, Maurice Bokoko. Peut-être qu'un mot avant
oui,
que nous terminions. Rapidement, s'il vous plaît.
Oui,
rapidement, s'il vous plaît.
Oui, rapidement, je le fais. Mais je pense que les Congolais doivent comprendre les choses que même les États-Unis ont besoin justement du Congo et ils se mettent parce que tout le monde profite de ce désordre-là pour s'enrichir, pour faire en sorte que leur pays respectif ait une vie aisée par rapport aux Congolais. Donc nous devons prendre la situation au sérieux, au lieu de se remettre toujours aux gens extérieurs.
Merci beaucoup Maurice Bokoko, c'est par vous que nous mettons un point final à cette tribune de la presse. Merci donc à tous nos confrères d'avoir été associés à cette émission. Nadine Foul a été à la réalisation et Héritier Sidiakala à la mise en onde. Au revoir et bon week-end sur Radio Capi, la radio de la paix. I'm going to go to the hospital.